Maurice Lemoine, quelques mots sur un autre front.
Vous allez penser qu'on est un peu obsessionnel, mais en fait, on s'est intéressé à l'Amérique latine qui dit non. Qu'il n'y a pas qu'en Europe qu'on dit non. En partant comme ça pour s'amuser un peu d'une légende qui courait en Bolivie, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, où on disait que lorsqu'un journaliste arrivait à La Paz, il allait directement à la place Amorillo, ou la place Morillo, qui est dans le centre de la ville, où vous avez d'un côté le palais du gouvernement, et puis de l'autre côté, il y avait un grand hôtel qui, je crois, n'existe plus, et le journaliste allait dans le grand hôtel et demandait une chambre avec vue sur le coup d'État. Bon. Et aujourd'hui, on pourrait presque faire naître une nouvelle légende, disant qu'un président qui arrive au pouvoir demande avec un bureau avec accès direct à l'hélicoptère. Puisque depuis 2001, trois présidents ont quitté le pouvoir en échappant à des mouvements populaires par hélicoptère. C'est le président De La Rúa en Argentine, c'est en 2001, Sánchez de Lozada en Bolivie en 2003, et puis tout récemment, en avril dernier, le président Lucho Gutiérrez en Équateur. Il y a trois présidents qui se sont fait sortir, on va dire, là, pas par les urnes en l'occurrence, et qui étaient évidemment trois présidents qui menaient des politiques libérales, qui étaient de fidèles alliés des États-Unis. Et dans ce sens, on peut dire que sur ces trois cas, on a un recul de l'influence de Washington. On peut rajouter à ça l'existence de gouvernements qu'on considère maintenant comme à gauche, même si ce sont avec des politiques différentes, qui sont l'Argentine, qui sont l'Uruguay, de Tabaré Vázquez, qui sont le Brésil de Lula, et puis le Venezuela de Hugo Chavez, qui, entre parenthèses, dont plutôt les concitoyens, les compatriotes, comme on dit là-bas, compatriotas, avaient dit non. Massivement, le 15 août de l'an dernier, lorsque l'opposition a prétendu révoquer le président, et là c'est un 59,06% des voix qui s'étaient exprimées, là aussi contre des politiques néolibérales. Et puis après, on a essayé, en tout cas j'ai essayé aussi de pas tomber dans une espèce de simplification dans laquelle on dirait, après tout, toute l'Amérique latine est en train de basculer à gauche. Parce que effectivement, le projet, par exemple, de Chavez au Venezuela n'est pas tout à fait le même que celui de Lula au Brésil ou de Tabaré Vázquez en Uruguay. Il y a des politiques extrêmement volontaristes sur un axe d'ailleurs qui est en train de naître, il faut le constater, qui est Caracas-La Havane, avec la proposition de ce que là-bas on appelle l'ALBA, l'alternative bolivarienne pour les Amériques, qui est en gros, on va dire, dans le cadre de l'intégration latino-américaine, ce que réclame le nom de gauche, le nom ici en Europe, hein, à peu près la même logique. On a d'autres logiques de gauche qui ressemblent plus à notre gauche social-démocrate, qui serait l'intégration à travers le marché, qui est un peu le style de Lula ou de Tabaré Vázquez avec le Mercosur, marché commun du Sud. Et en même temps, malgré ces politiques distinctes, donc on ne peut pas parler d'un bloc anti-américain par exemple, hein, les relations sont distinctes, mais néanmoins certains objectifs sont communs. Et c'est vrai qu'on trouve maintenant, on se trouve dans un phénomène qui est très intéressant au niveau de l'Amérique latine, dont pendant très longtemps on a regretté l'absence de politique commune, l'absence d'intégration face aux grands voisins du Nord, et on trouve dans chez tous ces pays une volonté de s'unir d'une certaine manière pour lutter contre l'hégémonie américaine. Alors il y a deux exemples phares, parce qu'il faut aller vite, paraît-il. C'est la création il y a quelques jours, ou plutôt en tout cas les premières émissions il y a quelques jours, d'une télévision sud-américaine, Telesur, sous l'impulsion de l'inévitable Chavez, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est lui le fer de lance du changement, télévision dans laquelle participent Cuba, le Venezuela, l'Argentine, l'Uruguay, sans doute bientôt le Brésil, pour contrer l'influence de CNN. Bon. Il y a l'idée, alors tout ça dans le cadre de l'alternative bolivarienne pour les Amériques, l'idée de, par exemple, de créer une compagnie pétrolière sud-américaine, là aussi pour échapper au cartel. Et donc une volonté d'avancer. Et tout ça s'est concrétisé, et j'en termine, je vois bien votre inquiétude, les mermets, tout ça s'est concrétisé quand même dans un événement qui a été très très peu souligné dans la presse française, mais c'est vrai qu'on était en pleine campagne référendaire, donc le reste du monde est passé un peu inaperçu, ça a été la dernière élection du secrétaire général de l'Organisation des États américains. Cette organisation qui existe depuis un tout petit peu moins de 60 ans n'avait jamais eu à sa tête un candidat qui n'était pas soutenu par les États-Unis. Or, pour la première fois, vient d'être élu l'ancien ministre de l'Intérieur chilien, Insulza, malgré l'avis des États-Unis, qui dans un premier temps ont soutenu l'ancien président salvadorien Flores, qui a eu le mérite d'envoyer des troupes en Irak, pas beaucoup hein, quand même, mais des troupes symboliques, et qui a joui d'un appui tellement lamentable que tout de suite ils ont retiré sa candidature pour pas être humiliés devant l'opinion latino-américaine, et ensuite ils ont soutenu un candidat mexicain, et finalement, Et finalement, les latino-américains, contre l'avis de Washington, ont choisi un Chilien, Insulza. On a donc une évolution et on a concrétisé ça, et j'arrête là. Les Andes brûlent, le Sud s'organise et Washington perd la main.